chronique extraordinaire de vie ordinaire. En ce début de printemps, le vent secoue les branches des arbres lourds des premiers bourgeons. Les couleurs du renouveau s'étalent dans la ville. Rouge magnolia, blanc pommier, rose lilas. Eva sort de sa jolie maison en bois au jardin parfaitement arrangé, aux haies taillées au carré et aux rosiers bientôt éclatants. Elle chantonne en joie, sourire aux lèvres, car aujourd'hui, dans la ville, les femmes prennent une pause dans la fureur de leur journée doublement chargée. C'est aujourd'hui la grève féministe, comme tous les ans depuis le vote de la loi pour l'égalité sur les salaires entre femmes et hommes, il y a belle lurette. Depuis, les choses ont bougé très lentement, flemmard tant qu'il traîne, comme les chaussettes qu'Eva a décidé désormais de ne plus ramasser. Eva, elle travaille depuis 20 ans dans le cabinet médical de son mari médecin, rencontré à l'université. Au début, c'était juste pour l'aider quand il s'est installé. Et puis, le provisoire est devenu permanent. Elle a arrêté de travailler après la naissance de leurs enfants. Anna est arrivée d'abord, puis Max 2 ans plus tard. Quand Anna et Max sont allés à l'école, son mari a décidé qu'Eva pouvait reprendre son travail en étant déclarée. On n'est jamais trop prudent. Elle a repris le travail à temps partiel parce que l'éducation des enfants, c'est primordial et qu'y consacrer du temps, c'est normal. Elle est la mère après tout. Elle a dans sa famille une mère, des tantes, des sœurs, aimantes et qui ont toujours été présentes pour leurs enfants. Certes, parmi les enfants, certains ont poussé de travers et les femmes ont refoulé loin des regards leur culpabilité, leurs sacrifices n'ayant pas été payés en retour. Le fils de sa tante, par exemple, avait fait son coming out et son mari lui avait alors envoyé l'image d'une mère trop aimante. Pas étonnant alors qu'il soit devenu trop sensible et fragile, pas un vrai homme, quoi. Sa tante avait subi toute sa vie les reproches, avait rongé son frein et aimé de toutes ses forces son fils, parti loin de la petite ville pour échapper au visage fermé, aux sourcils froncés, au harcèlement des copains. Et puis il y avait aussi la sœur d'Eva, qui n'avait jamais travaillé, dont la fille avait abandonné du jour au lendemain son travail dans l'entreprise de son père, après des études très onéreuses en école de commerce. Elle était partie vivre en Amérique du Sud pour rejoindre une ONG chargée de la défense des droits des peuples autochtones. La rage et la honte avaient submergé le père, qui en avait voulu à sa femme et lui avait fait sentir, physiquement et psychologiquement. Sa sœur n'avait jamais eu le courage de partir et n'était plus que l'ombre d'elle-même. Eva a toujours été l'architecte du bien-être de sa famille. Son mari travaille beaucoup et quand il rentre le soir, c'est congé. Elle, le soir, elle n'a jamais congé. Elle est comme le commandant de bord assise dans le cockpit de l'avion familial, la tête pleine qui déborde avec l'angoisse du crash. 1000 questions l'envahissent du matin au soir et parfois la réveillent la nuit. Des questions de rien qui font l'essentiel de sa vie. La tante a-t-elle reçu sa carte d'anniversaire? Les maillots de bain d'Anna et Max sont-ils dans la valise? Les livres ont-ils été rendus à la bibliothèque? Le rôti est-il trop cuit? Le linge a-t-il été étendu? Le rendez-vous chez le dentiste est-il pris? Mais aujourd'hui, c'est la grève du pilotage. La tête se vide des angoisses et la joie les remplace. Eva, elle est douée en couture. Alors, elle a proposé de broder une banderole pour le défilé. Tous les ans, elle les brandissent fièrement, leurs bannières, telles des chevalières des temps nouveaux, boucliers contre les ravages du mépris. Eva a récupéré des vieux draps en lin et des vêtements usés chez les copines. Elle a teint les draps, a cousu les morceaux de vêtements avec du fil d'or retrouvé au fond de sa boîte à couture, souvenir de déguisements confectionnés pour les enfants pour le carnaval. Elle a brodé des mots qui rassemblent « temps, respect, argent » et puis aussi un point violet avec le symbole de Vénus. Elle a passé plusieurs petits matins avant de partir au travail, à terminer la bannière. Et en brodant, tout le déséquilibre de sa vie lui est revenu en tête. Son mari, rencontré jeune, responsable, organisé, propre sur lui. Le temps passé à s'occuper d'eux, comme une évidence, sacrifiant ses propres désirs, se mettant toujours en arrière-plan sur l'écran de la vie de son mari et de ses enfants. La confiance en soi qui s'érode, l'écoute permanente malgré le désintérêt pour les propos, la peur de froisser en disant la vérité des sentiments. Derrière le papier peint de la vie de famille, son épuisement transparaît. Elle se dit que vivre sans les tâches domestiques imposées, ce serait vivre vraiment. Vivre au rythme de ses envies à elle, ce serait vivre enfin.
No quiero cantar más de amor, no quiero hablar más de abrazos. No tengo miedo del desierto, de las luces lejanas, de las noches más negras y del mar sin color. Quédate en el silencio, nace el sol y del silencio nace el llanto. Milagro de la madrugada, de tu cuerpo callado, salen barcos y nieve. Quédate libertad.
Au défilé aujourd'hui, il y a des stands de bière, des plats aux saveurs d'ailleurs, des fumigènes violets, un orchestre de tambours endiablés, des mots qui fusent sur des pancartes brandies avec panache, des cris de joie et de colère. Et la bannière colorée avec ses fils d'or illumine le bleu du ciel de printemps. Eva la porte fièrement. Des photographes le long du cortège la prennent en photo. Ses amis immortalisent le moment avec leur téléphone. Le lendemain, son mari lui dit qu'elle est à la une du journal. Elle se voit alors avec son étendard et une grande fierté l'envahit. Elle rit aussi, tout à la joie d'avoir donné vie à des mots de beaucoup. Sur les réseaux sociaux, la photo de la bannière fait fureur. Elle lui échappe, elle vit sa vie maintenant. Elle reçoit l'appel d'une radio qui lui demande un entretien sur son travail de broderie. Ça la fait rire qu'il pense que c'est son métier. Elle accepte, en décidant de ne pas parler couture. En ouvrant la porte de sa maison à la journaliste, elle la reconnaît tout de suite. C'est Jeanne. Elle est finalement devenue journaliste. Elle est allée au bout de son rêve. Elle se serre dans les bras. Un long moment. Une éternité. Eva, elle a passé toutes ses années lycée avec Jeanne à l'internat. Leur complicité, tout doucement, a glissé vers autre chose. Elle ne pouvait plus passer une journée sans se voir, sans s'écrire. Inséparables, inatteignables dans leur bulle d'amour. Des amis proches, c'est comme ça qu'on les considérait. Elles s'étaient perdues de vue en allant à l'université, chacune de leur côté. Et 30 ans après, les voilà ensemble, à nouveau, comme une évidence. Elles jurent de ne plus jamais se quitter, cette fois.
On brûlera toutes les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre, mon ange. Et je veux partir avec toi.
Rêve de pouvoir dire à son mari et à ses enfants devenus jeunes adultes ce qu'une de ses actrices préférées déclare à sa famille dans un film culte. Que leurs problèmes de boulot, d'argent, de cœur, en général et en particulier, elle s'en fout, elle s'en contrefout. Que pendant 30 ans, elle les a nourris, torchés, consolés, tous les trois. Qu'elle n'a vécu que pour eux, à travers eux. Qu'elle a écouté leurs problèmes et chagrins sans les embêter avec les siens. Et qu'aujourd'hui, c'était l'heure de la retraite après ses cotisations quotidiennes puisées dans son capital estime de soi. Qu'elle a retrouvé l'amour de sa vie, qu'elles sont mûres pour une vraie histoire en partage et en légèreté, qu'elles sont cousues l'une à l'autre, centimètre par centimètre, par un fil indestructible. Mais ces paroles-là, c'est bon pour le cinéma. Eva part un petit matin en catimini en laissant un message. Cher Alain, je pars avec Jeanne. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Les jours qui restent seront beaux, ne t'en fais pas. Chers enfants, je vous aime. Vous avez une longue vie devant vous. Je suis sûre que vous allez très bien vous débrouiller. Et avec les traces de la banderole aux mille fils d'or d'Eva, encore visibles dans le ciel mauve, rien ne vaut la vie au détour de la petite ville à l'aube.
On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère à son gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, je dois tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien, Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en est aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien.